Rebonjour à toutes, rebonjour à tous. Encore merci de votre présence et de votre participation au Peplug Day. Moi, je m'appelle Alexandre et je fais partie de Peplug et on est très content de vous avoir ici avec nous sur cette première table ronde. Aujourd'hui, on va parler de conversion en ligne. Quelles opportunités face aux contraintes ? Alors, en guise d'introduction et avant de présenter mes collègues panélistes, je voudrais vous donner un chiffre. Le taux de conversion e-commerce aujourd'hui moyen s'élève à 3,65%. C'est un chiffre qui est assez stable. En revanche, selon le baromètre digital du DNG, le dernier, on a des coûts d'acquisition client qui explosent. On était de 26 euros en 2021 et on est à 32% en 2022, à peu près, 32,40%. Donc ça, ce sont des coûts qui pèsent de manière croissante sur les e-commerçants. Et la question qu'on va essayer de se poser aujourd'hui et qu'on va essayer de réfléchir un petit peu avec vous, ça va être de se demander comment en tant que commerçant et comment en tant que e-commerçant, on peut repenser sa stratégie de conversion dans ce contexte pour continuer à aller chercher des objectifs de croissance. Donc on va aborder trois principaux sujets. On va aborder des pistes de réflexion pour les marchands, pour optimiser la conversion. On va essayer de vous donner aussi des success stories, des exemples de marchands avec qui on travaille, pour vous donner aussi des clés un petit peu plus concrètes. Et puis on vous donnera aussi des chiffres récents pour illustrer un petit peu le contexte actuel en matière de conversion. Et donc pour ça, je suis accompagné de trois personnes. J'ai Laurent Kretz qui est avec moi, qui est le cofondateur et CEO de Cosa Vostra, qui est un cabinet de conseil en stratégie digitale et e-commerce, et également animateur du podcast Le Panier. Salut Laurent.
Bonjour à tous.
Margot Pignard, qui est Product Marketing Manager chez Content Square, donc qui est le leader en analytics d'expérience digitale. Salut Margot.
Bonjour à tous.
Et Yann Rivoalan, qui est le président de la Fédération du prêt-à-porter féminin et qui est également entrepreneur depuis 30 ans. Merci à vous trois pour votre présence sur cette table ronde. Salut Yann.
Merci beaucoup.
Et donc on va attaquer direct dans le vif du sujet. J'ai une question pour toi Margot. Pourquoi le coût d'acquisition a-t-il augmenté ces dernières années ? Et est-ce que ça concerne tous les secteurs de la même manière ou est-ce que c'est différent d'un secteur à l'autre ?
Alors, je pense que le constat est commun à tous aujourd'hui. Le coût d'acquisition, c'est plus 60% ces 5 dernières années à peu près. Donc, c'est juste exponentiel. Alors, non, bien évidemment, c'est pas la même chose selon les industries. Donc, dans tous les cas, il y a une concurrence accrue dans beaucoup de secteurs, évidemment. Les coûts des technologies augmentent énormément aussi, forcément. Donc, les enjeux autour des coûts de l'acquisition sont extrêmement complexes pour beaucoup. Dans le commerce et le retail, c'est clairement la concurrence avec les enjeux de monopole. On a Alibaba, Shein qui viennent s'installer très, très largement et très rapidement sur nos territoires et nos marques françaises, européennes qui se font dévorer petit à petit. Ce qui est assez différent pour le coup de la finance et de l'assurance pour qui les coûts d'acquisition continuent d'augmenter, mais de leur côté, eux, c'est surtout des enjeux d'accompagnement de leurs clients. En fait, un client à convertir en banque et assurance, ça prend des mois et des mois, que ce soit pour remplir un formulaire pour une demande de prêt jusqu'à commencer des investissements sur le long terme avec des assurances vie. Donc aujourd'hui, ces coûts d'acquisition, ils font les frais d'un monde qui est toujours plus connecté, toujours plus international. Et les marques, avec les nouvelles technologies, commencent à trouver des leviers pour pouvoir résoudre ces sujets-là. Mais a priori, ça va continuer à augmenter particulièrement. On retrouve juste dans le consumer goods. La grande distribution, excusez-moi, des formations professionnelles. La grande consommation et le healthcare, on a une certaine stabilité sur les coûts d'acquisition de ce côté-là, parce qu'ils ont toujours été particulièrement complexes, mais donc ils ont rapidement craqué le sujet.
Donc les coûts d'acquisition augmentent, explosent. Et donc si on retourne un petit peu du côté des marques, je me tourne vers toi, Laurent. C'est quoi pour toi aujourd'hui les ressentis que tu as avec les marques avec qui tu travailles, soit dans le cadre de Cosa Vostra, soit dans le cadre du podcast, justement sur l'augmentation de ses coûts d'acquisition. Et j'ai une deuxième question dans ma première question, c'est est-ce que les points de friction qui existaient il y a 5 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui ?
Alors c'est hyper intéressant et quand on a commencé à préparer le sujet, je me posais la question, on a toujours tendance à comparer la période actuelle par rapport à la période précédente. Et au risque de passer pour un vieux con, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge de la salle, mais quand tu regardes le marché depuis 20 ans, Les périodes normales, je ne sais pas combien de temps elles ont duré, peut-être 4-5 ans entre 2003 et 2008 et les subprimes, et ensuite on a enchaîné des événements, que ce soit les subprimes, que ce soit la French Tech et la création de 25 licornes dans l'espace de 5 ans, puis le Covid, l'ABS, puis l'explosion des coups d'ac. Donc ce qui se passait il y a 5 ans versus ce qui est aujourd'hui, je pense qu'on était dans une période anormale, on est toujours à mon avis dans une période anormale. Voilà. Ensuite, si on creuse là sur la période actuelle, effectivement, les coûts d'ac augmentent, les matières premières ont augmenté, la concurrence a énormément augmenté aussi, je pense, sur pas mal de verticales. Mais je pense que voilà, les leitmotifs que je retrouve moi en tant que témoin ou en tout cas intervieweur sur le panier sont autour de trois axes. C'est comment aller chercher de nouveaux leviers de croissance. Et je pense qu'à une époque où l'argent était roi, le trafic était roi aussi. Aujourd'hui, pour un trafic équivalent, il faut aller chercher de la conversion en plus. C'est bien le sujet d'ailleurs de la table ronde. Moi, les trois trucs qui reviennent, je pense, sont l'expérience de marque. Parce que tu peux créer du stickiness, vous pouvez créer du stickiness qui permet de créer de la fidélité. La fidélité, c'est forcément du panier moyen en plus et de la lifetime value en plus. L'email, qui a, je pense, explosé ces dernières années. Alors, on a toujours fait de l'email, évidemment. Mais là, on a plein d'outils qui permettent de le faire de manière plus efficace, plus intelligente. Je pense qu'avec l'IA, il va se passer des choses assez incroyables dans les scénarios d'automatisation d'email sur les plateformes. Et ensuite, il y a tout ce qui se passe sur le site. Et là, c'est Antoine qui le disait très bien tout à l'heure. Il y a pas de breakthrough, il y a pas de vérité absolue, mais je pense que c'est un ensemble de petites évolutions incrémentales qui permettent d'optimiser ton CRO à chaque étape du parcours. Nous, ce qu'on voit, et là, c'est ma casquette agence, Cosa Vostra, c'est que le travail UX, donc d'expérience utilisateur sur ces parcours, sur un site ou en multi-canal est hyper importante. Et je pense que voilà, c'est les trois principaux points que j'ai l'impression de voir ressortir de mes discussions avec des commerçants et commerçants ces dernières 5 années.
Donc sur cette période de 5 ans, et je rebondis sur ce que tu disais effectivement, Margot, on est sur un peu une nouvelle tendance qui est aussi marquée par l'explosion notamment de la fast fashion depuis ces dernières années. On parle beaucoup de l'impact de la fast fashion sur les commerçants, sur les comportements des consommateurs. Toi, Yann, comment tu visualises l'impact de la fast fashion aujourd'hui, justement sur les commerçants et aussi sur les décisions d'achat des consommateurs finaux ?
Alors, je vais revenir tout de suite sur la fast fashion. Je fais juste une réflexion de vieux con. Je pense pouvoir être le doyen. Il y a eu la crise de 2001, évidemment, avec les attentats qui avaient été très fortes. Et n'oublions pas aussi la chute du digital, qui avait remis quelque chose de nouveau, et en fait, c'est reparti en 2003 avec l'arrivée de la DSL en fait, et son augmentation, et l'apparition, et c'était positif à ce moment-là, par exemple, des ventes privées, qui, heureusement, étaient des héros français, versus, justement, les acteurs de la fast fashion, pour reprendre Alexandre. Quels sont les deux changements majeurs avec la fast fashion ? Il y en a un premier, c'est dans le surinvestissement et avec le dumping aussi de la part de la Chine. On a, par exemple, un Temu qui a investi l'an dernier 7 milliards, Donc 7 milliards, c'est un coût d'acquisition par client de 30 euros. Donc on a un acteur qui n'existait pas en octobre 2022 en France, et désormais c'est presque 3 millions de Français qui tous les jours vont sur Temu. Donc il y a ce premier point où, évidemment, vous prenez n'importe quelle marque, on pourrait faire l'exemple ensemble, on tape Majestic, on tape Nafnaf, on tape Gap, n'importe quoi, vous pouvez tout tester, vous verrez systématiquement chez Shein et Temu, c'est toujours mis sur Google en avant. Donc on va avoir, je vois qu'il y en a qui testent, vous me direz si ça... Non, d'accord, mais on peut tester aussi. Donc vous verrez, évidemment, chaque fois cette enchère supplémentaire augmente les coûts d'acquisition qu'on peut avoir sur son nom. Le deuxième point, et c'est justement dans la transformation qu'on va avoir dans les modèles. À partir du moment des Chine et des Temu sont sur des modèles où, et par exemple pour Chine, on crée 8000 nouveaux produits par jour, et ces créations de nouveaux 8000 nouveaux produits par jour permettent aussi, car il y a une fabrication de produits en 3 jours, d'avoir quasiment un modèle à la demande, parce que 8000 nouveaux produits fabriqués uniquement en 100 pièces unitaires, eh bien on attend la commande du client pour pouvoir la fabriquer de façon plus importante. Et donc on peut moduler notre acquisition de façon aussi beaucoup plus forte, parce que toute la chaîne est extrêmement liée. Les nouveaux produits, la nouvelle fabrication et les nouveaux coûts d'acquisition. Et donc cette agilité permet de viser mieux et plus fort aussi sur chacun de ces produits. Résultat, les bests qui s'installaient petit à petit dans la mode, là, avec ces acteurs de la fast fashion, s'installent en l'espace de quelques heures à peine. Quelques heures qui, en plus, sont facilitées par leur pratique, parce que comme ils n'ont aucune action éthique, parce que, par exemple, ils vont faire du déstockage de la promo au bout de non pas 30 jours, comme on le fait en France, mais eux, au bout de 3 minutes ou 3 jours, et bien là aussi, il y a une capacité à pouvoir transformer plus vite et donc de surinvestir évidemment en coûts d'acquisition. Et pour finir, on voit aussi le scandale des données, où on le voit par exemple avec Temu, qui nous propose 100 euros pour nous acquérir. Donc là aussi, on a un coût d'acquisition qui est dithyrambique. Et ce coût d'acquisition est bien sûr dans une retenue derrière de nos informations et dans un je ne sais quoi d'utilisation qui peut exister derrière. Donc on le voit, la donnée qui était assez stable, assez éthique, qu'on pouvait avoir dans les coûts d'acquisition avant la fast fashion, était un combat évidemment entre nous, mais un combat qui était légal. Désormais, on est face à des acteurs qui, à la fois surinvestissent, font un dumping et en plus, nous amènent dans un sujet, dans un combat qui est plutôt un combat de gladiateur avec une mise à mort à la fin.
On va remettre un petit peu d'optimisme dans cette discussion.
je m'attendais pas
à la mise à mort.
Les autres très questions. Bien.
Comment innover aujourd'hui quand on est e-commerçant ou commerçant justement face à ces nouvelles tendances et à la fast fashion? On parle souvent d'une stratégie de test ou de stratégie de test and learn chez les e-commerçants, mais il y a souvent un dilemme qui se pose, c'est comment est-ce que j'investis d'un côté dans une stratégie de test alors que j'ai quand même des objectifs de rentabilité aussi à court terme. Donc moi j'ai posé une question un peu naïve, mais elle est pour toi Laurent. Moi je suis e-commerçant aujourd'hui, j'ai aucune stratégie de test. Comment est-ce que je fais pour me lancer? Sur quoi est-ce que je dois lancer mes efforts? Et si tu devais me donner un ou deux KPI à suivre dès le début, ce seraient lesquels?
Bah, te lance pas. Non, je déconne. Mais en fait, le sujet est souvent abordé, et je pense qu'il y a un enjeu de base, c'est le trafic. Pour avoir une stratégie de cette salle qui est intelligente et qui est efficace et de l'A-B testing, il faut quand même un niveau de trafic, un niveau de commande qui est important. Et moi, je vois très souvent des commerçants et e-commerçants qui se lancent dans des stratégies comme ça, avec, somme toute, des niveaux de trafic tout à fait honorables, mais ce n'est pas la redoute avec, je crois qu'on est à 7 ou 8 millions de VU tous les mois, où là, tu as la réponse à ton A-B test en un quart de seconde. Donc déjà, la bonne question à se poser, je pense, c'est est-ce que mon trafic est suffisant pour générer vraiment une stratégie de test and learn et d'A-B testing? Parfois, ça peut être une mauvaise idée. Donc je pense que déjà, c'est la première chose à prendre en compte. C'est quand même assez difficile de forger des convictions à marée basse, quoi, sur son site et ses parcours optimisés. Mais si jamais on se lance, je pense qu'il y a aussi une erreur qui est faite assez souvent, c'est de multiplier les tests d'A-B testing quand on a assez peu de trafic. Et l'A-B test, c'est assez simple, hein, c'est A-B, c'est pas A', A tiers, c'est ainsi de suite. Et plus on multiplie les tests sur son site, plus il y a de chances que on n'arrive pas à tirer des conclusions définitives et donc des convictions sur les optimisations du site. Mais tu me poses la question, si on se lance, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que là, il y a des choses assez simples et que souvent on ne fait pas. La première chose, c'est un audit de son site. Et il y a des outils géniaux qui permettent de le faire, comme Content Square, mais plein d'autres, pour voir justement dans les parcours de mes utilisateurs où sont les frictions. On peut aussi, il y a des choses assez simples, hein, mais quand on est un petit commerçant en termes de chiffres, mais simplement laisser tester son site à des proches, regarder comment ça marche. Mais voilà, la première chose, c'est regarder comment... ce qui se passe sur mon site, donc c'est son audit. Et la deuxième aussi, qui est parfois un peu oubliée, c'est que ça ne sert à rien de réinventer la poudre. Il faut regarder ce que font les concurrents, direct ou indirect, s'inscrire à des newsletters, faire des achats et ainsi de suite, et voir sur des univers concurrentiels immédiats ou plus lointains, quelles sont les bonnes pratiques qui se font ailleurs. Alors ça, une fois de plus, c'est pour des commerçants et e-commerçants qui sont de taille, on va dire, intermédiaire, des 500 000, 5 ou 10 millions.
Ok, donc on commence par un audit, on regarde aussi un petit peu ce qui fait les concurrents, et si on s'intéresse aussi un petit peu aux tendances, on a beaucoup parlé donc des stratégies côté fast fashion, mais si on se sent plutôt côté commerçant et e-commerçant en France aujourd'hui ou aussi en Europe, toi Yann, c'est quoi les tendances que tu vois aujourd'hui en termes d'innovation digitale?
Alors il y a plusieurs tendances qui sont effectuées en fait de la part des marques. On pourrait repartir sur une donnée assez éthique, dans le consommer moins, consommer mieux, qui est mis en place par de très nombreuses sociétés et qui est en fin de compte assez complexe parce qu'à partir du moment où on rentre dans le consommer moins, on va aussi potentiellement diminuer son chiffre d'affaires. Qui amène une vraie logique qui est comment est-ce qu'on va désormais avoir aussi des nouveaux business models. Le nouveau business model, c'est par exemple ce que peut faire Petit Bateau avec cette capacité à pouvoir vendre à la fois la seconde main et la première main sur son site. Donc c'est une des tendances qui réinvente aussi la capacité à pouvoir réinscrire sa conversion en se disant comment sur mon site je vais pouvoir proposer du neuf, je vais proposer l'ancien, comment je vais pouvoir qualifier mon client en comprenant s'il est dans un côté ou de l'autre, comment est-ce que je vais pouvoir l'amener à être aussi vendeur en fin de que acheteur de ma marque. Et donc cette capacité à travailler sur l'intégralité de la vie de mon client et de la vie du produit, c'est une double consonance où d'un côté, je ne vais pas travailler que sur un produit neuf, je vais pouvoir me dire comment est-ce que je lui donne plus de valorisation. Et cette tendance dans la valorisation, c'est pouvoir passer du modèle ce qu'on appelle celui de la seconde main, plutôt un modèle du vintage. C'est-à-dire de ce moment où on va pouvoir se dire mon produit a plus de valeur, non pas parce qu'il a été porté ou pas, mais mon produit a plus de valeur parce que j'arrive à lui donner une meilleure expérience, y compris dans le temps, y compris quand il a déjà été porté. Cette donnée de vintage, on l'a connue avec quelques pièces emblématiques pendant des années. Donc désormais, il doit se réinscrire et pouvoir se dire quand je rentre dans un magasin, je tombe sur une vieille pièce certes, mais elle a beaucoup de valeur et c'est parce que la marque l'a choisie. Le deuxième point, il vient en partie par exemple avec l'intelligence artificielle et ce que peut faire aussi d'autres sociétés en prenant justement ces anciennes collections et en réinventant de nouvelles collections avec l'intelligence artificielle. Et cette capacité à pouvoir réinscrire de nouvelles collections de façon à la fois plus agile et en même temps avec les algorithmes, c'est aussi une nouvelle façon de créer. Et là aussi, ça peut favoriser désormais une nouvelle consommation parce qu'on va avoir des produits qui vont être à la fois plus dans la tendance si les algos nous aident justement à mieux le déterminer et en même temps plus proche de l'historique de la marque grâce aussi à l'analyse de la data. Donc cette base réinscrit complètement les tendances qui peuvent exister dans la conversion parce que la vie même du produit va complètement changer et la compréhension du client de quand est-ce qu'il veut acheter, pourquoi il veut acheter, elle aussi va évoluer.
Et sujet d'ailleurs d'intelligence artificielle et données, donc on va aborder effectivement juste après. Si on rentre dans le cœur du réacteur chez toi, Margot, qui a vraiment du coup les mains dedans chez Content Square, et qu'on change un petit peu de secteur pour avoir un exemple un peu concret, est-ce que toi, tu as un peu une success story d'un de vos clients à nous partager justement sur la mise en place d'une stratégie de test et sur les conséquences que ça a pu avoir derrière pour le business du marchand?
Bien sûr. Bon, des stratégies d'A/B test qui réussissent et qui ratent, il y en a tous les jours, évidemment, parce qu'en effet, nos clients en font beaucoup, des A/B tests, peut-être trop d'ailleurs. Ça fait partie des leçons et des accompagnements qu'on propose aussi, évidemment, avec notre plateforme. Donc, pour rappel, Content Square, c'est nous l'expert de l'audit. On va vous dire si la conversion est bonne, si les sessions sont les plus performantes, etc. Une histoire d'A/B test que j'aime beaucoup parce que je la trouve très parlante. Je peux pas vous dire quel est le client, mais on est dans le secteur des telcos au UK, un des acteurs majeurs. Comment est-ce qu'il a décidé de faire un A/B test? Il a très simplement décidé de réduire le nombre d'appels pour son call center parce que ça coûte une fortune, encore une fois, de passer du temps humain pour aider à convertir, accompagner l'utilisateur sur son site internet. Donc comment est-ce que je réduis les appels au call center? Ils ont targeté la page de facturation, donc c'est-à-dire là où vous retrouvez en fait toutes vos factures de votre abonnement mensuel avec votre box, votre téléphone, le package family et la consommation de données de la adolescents. À partir de là, leur objectif a été de mettre en place un chatbot qui s'activait automatiquement dès qu'il y avait plus de 4 rage clicks qui se déroulaient sur la page, sur la session. Des rage clicks, c'est quand on est extrêmement énervé et qu'on va cliquer à répétition, de manière assez violente, il en faut 4 pour pouvoir activer le chatbot. Là-dessus, il y avait donc une version de contrôle, évidemment, donc sans chatbot, sans aucun test. Une version où le chatbot avait une introduction assez classique. Bonjour, apparemment, est-ce que vous rencontrez un problème? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et une version où là, le chatbot était un peu plus spécifique. Il demandait, est-ce que vous avez un problème par rapport à votre facturation? Globalement, le chatbot est un grand succès. Ils ont fait le test pendant un mois sur plus de 500 000 sessions qui sont passées du coup sur la page bill. Ils ont plus que 500 000 sessions par mois, promis. C'était, on va dire, cohérent. Et donc les variations ont fonctionné. Le chatbot était un grand succès. Ils ont quasiment sauvé, à l'échelle d'une année, c'était plus de 14 000 appels au call center qui étaient économisés. Donc c'est juste un gain de temps et de coûts absolument phénoménal. La variation avec la spécification sur concernant la facture a performé un tout petit peu plus, mais c'était vraiment un détail. Au final, par contre, ce qui était vraiment intéressant à tester, ce qu'ils n'ont pas cherché à tester en premier lieu, mais ce qu'ils ont appris derrière, c'est que la majorité des clients, en fait, qui arrivaient sur cette page-là, leur objectif, c'était en fait de changer leur abonnement. C'était de changer les produits, c'était de changer leur package, c'était d'annuler un produit, annuler une commande. Et ils se retrouvaient sur l'aspect donc facturation, où par définition, on ne peut rien changer, c'est trop tard, ça a déjà été facturé. Et c'est plus de 20% des personnes qui se rendaient sur ce site-là qui cherchaient en fait à gagner en liberté, en personnalisation. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir choisir le niveau de package, le faire varier d'un mois sur l'autre selon leurs usages. Et ce qui est intéressant dans cet A/B test, c'est que bon, le chatbot personnalisé, voilà, ça marche. Je pense que pour des clients qui sont suffisamment autonomes pour aller sur le chatbot, enfin pour répondre au chatbot, eux, il y a déjà un engagement naturel. Mais au final, ce qui était intéressant de tester, c'était que ces personnes-là, vu qu'ils avaient déjà un niveau de connaissance assez poussé, qu'ils étaient déjà engagés, qu'a priori, ils allaient continuer à consommer, le sujet pour eux, c'était plutôt de gagner en liberté, en personnalisation et surtout d'être autonome là-dedans et donc de ne pas avoir à appeler le call center pour régler tous ces problèmes-là. Voilà un peu un mix en plus avec de l'IA, parce que du coup le trigger à partir du rage click, il y a aussi un peu d'intelligence artificielle derrière tout ça.
Je connaissais pas le rage click, je trouve ça passionnant.
Ah mais c'est voilà, celui-là il est très très connu chez nous chez Content Square pour le coup, on utilise celui-là avec d'autres métriques pour créer un scoring de frustration. Donc on va être en mesure, pas pour chaque session, pour chaque page, de sortir un scoring qui va détailler un peu le niveau de frustration. Est-ce que derrière cette frustration est causée par une erreur, par un rage click? Est-ce que le rage click est sur un bouton qui a une erreur ou justement juste il ne drive pas sur les bons sujets? Voilà.
C'est intéressant parce que donc on est en train de dire que à chaque niveau du funnel et du parcours, il y a des optimisations à aller chercher via de l'A/B testing pour comprendre quoi faire ou via des convictions, je pense. Et toi, tu as parlé de la durée de vie de l'utilisateur pour Petit Bateau, qui est un très bon exemple que j'adore. Il y a un passage aussi où on peut aller chercher de la conversion. Alors c'est pas de la conversion, c'est du CA. Gagné, on va dire, c'est tout ce qui se passe aussi post-achat et la gestion des retours. Et en ce moment, il y a beaucoup de plateformes. Vous avez Raphaël derrière de Babac qui permet ça, mais qui permet de rattraper du CA. Ça va être 10, 15, 20, 30% sur du CA qu'on aurait potentiellement perdu lors d'un retour. Ça aussi, c'est des éléments à prendre en compte. Et en fait, tout ce qui se passe dans la vie de l'utilisateur qu'on va fidéliser avec un bon stickiness après son achat, du retour jusqu'à la seconde main, fait partie de ces petits éléments qui font gagner du CA, quoi.
Et surtout, ces clients-là, on les voit, ils sont plus cléments avec nous. Ils acceptent plus les erreurs derrière, ils sont plus loyaux. Donc, c'est toujours plus rentable de fixer les problèmes d'expérience.
Donc, je vous invite dès ce soir maintenant à essayer de cliquer très vite sur certaines pages de certains sites pour voir si ça déclenche des choses. Il y aura peut-être du Content Square derrière. On est arrivé sur un sujet qui est encore un petit peu, qui est lié à la conversion, mais qui est encore un petit peu... avant, c'est tout le sujet de l'expérience client. Je vous propose qu'on va faire un petit pas de côté pour revenir un peu sur ce sujet. Yann, j'ai une question pour toi. Si je te dis massification, internationalisation, hyper-personnalisation, c'est des concepts que tu as notamment abordés sur... tu mets un mot là-dessus qui s'appelle la mise en sablier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et surtout nous dire qu'est-ce que ça implique aujourd'hui pour les e-commerçants?
Alors, pour prendre le marché il y a quelques années, on avait un marché en pyramide. C'est-à-dire peu de marques de luxe, beaucoup de marques moyen de gamme et un certain nombre de marques bas de gamme, avant tout dans les supermarchés. Ce marché s'est transformé parce que, au fur et à mesure des années, à la fois parce que le pouvoir d'achat, en fin de compte, a manqué, même si a augmenté, même si on ne s'en rend pas compte pour la majorité de notre quotidien, surtout maintenant, mais le pouvoir d'achat a quand même monté et résultat, on a acheté de plus en plus de marques de luxe. Ces marques de luxe, ça entraîne un système de ségrégation sociale, c'est-à-dire si mon copain a une marque de luxe et moi j'en ai pas, là je parle beaucoup des adolescents, on se sent encore plus obligé d'en acheter. Donc il y a un entraînement vers le haut à acheter des marques de luxe, le tout accentué évidemment avec les réseaux sociaux, où par exemple, c'est aussi la force de Jacques Mus, la capacité d'avoir une audience grâce aux réseaux sociaux et créer encore plus la version à la perte, amène aussi ces marques de luxe à monter de plus en plus. Ceci est accentué par un deuxième phénomène qui est évidemment celui de la seconde main, parce que quand je peux acheter ou difficilement acheter un Oudis Balenciaga à 900 euros, je peux plus facilement l'acheter en seconde main à 300 euros. Donc les marques de luxe ont monté comme jamais, et il suffit de voir encore le CAC 40, même si c'est un peu baissé ces derniers temps, qui représente bon an mal an, les luxes représentent quasiment 40% du CAC 40. Donc de ce fait, il y a une montée en gamme qui était très forte, le tout évidemment accentué par toutes les autres marques légèrement en dessous. Je pense bien sûr à SMCP, à Bâche ou encore à Cézanne. De l'autre côté, on voit bien sûr avec des Chine, avec des Temu, mais aussi avec des Actions ou encore des Primark, un développement très fort de la massification et avec des achats qui avant étaient plutôt des achats radins et qui désormais sont des achats malins où on se dit je vais acheter comme avant malgré l'inflation et donc je vais pouvoir acheter au moins autant de produits mais à des prix plus bas. Et donc j'ai la satisfaction d'aller faire du shopping avec toujours un caddie rempli. Donc on a plus en haut, plus en bas. Et ça amène un phénomène très simple, c'est moins au milieu. D'où la disparition de toutes les enseignes du type Naf-Naf, du type Camailleux, et ainsi de suite. Certaines de ces enseignes arrivent à se transformer, par exemple ces Promode qui arrivent à devenir plus premium, y compris justement avec un travail sur l'éco-responsabilité, et puis d'autres, malheureusement, essayent d'aller plutôt vers le bas. Je ne les nommerai pas, celle-là, je vais être plus sympa. Et donc essaye d'avoir du volume, ce qui pour moi est une cause désespérée, parce qu'on ne peut pas lutter face justement à ceux qui ont des conditions éthiques qui sont inadmissibles. Et donc pour eux, c'est tellement facile de faire des prix aussi bas. Et ce phénomène, il se fait aussi en fin de compte dans nos emplois et dans notre pacte social, parce que les classes sociales aussi disparaissent, les classes moyennes. Parce que soit on arrive à s'élever et à devenir data scientist, et donc on monte par exemple en haut, y compris avec les nouveaux métiers, soit on est déclassé, et on avait avant un métier classique de moyen, et on va définir livreur Uber Eats. Et là, phénomène de déclassement très fort, et le résultat, c'est aussi dans nos élections. Et c'est une de mes réflexions, qui est de faire des analyses ces prochains mois, entre le vote des extrêmes, et l'achat Chine est ému. Parce que les premiers indices et les premières enquêtes que j'ai pu effectuer montrent une corrélation assez forte qui revient à l'époque des Gilets jaunes. Donc ce phénomène, justement, de sablier qui est en train de se mettre en place, il se met sur plein de métiers et je pense qu'il va être accentué par l'intelligence artificielle. Donc il y a une vraie problématique de société, une vraie problématique politique, une vraie problématique économique à mettre en place. Et évidemment, la capacité de nos marques à pouvoir mieux transformer va dans ce sens parce que je pense que quand on transforme, on crée aussi l'interaction sociale et donc aussi la paix sociale.
Je peux me permettre, mais quelle issue alors pour le milieu du sablier ?
L'issue, elle est justement politique. L'objectif de la loi anti-fast fashion, c'est de créer des barrières pour des lois de sociétés comme Chine, avec un système de malus qui augmentait le prix de 5 euros par produit. Et donc, ton produit, ton panier, il va être augmenté de façon assez importante, de quasiment 50 à 100%. Et donc, résultat, tu limites ces acteurs. Donc, il y a une première base qui est d'empêcher ces acteurs de pouvoir le faire. Le deuxième, c'était aussi grâce à cette loi, de prendre ces 5 euros pour les donner aux marques françaises, pour qu'elles puissent, à ce moment-là, justement, investir, retrouver du gras, retrouver de la marge, pour pouvoir aller plus loin dans l'éco-responsabilité et en même temps de l'innovation. Donc la seule solution que j'ai trouvée à mon niveau, c'est de mettre en place des lois. Le reste, c'est foutaise, parce que quand on a un pays qui, de toute façon, détruit l'environnement et de l'autre côté, rend ses ouvriers esclaves, on ne peut pas faire grand-chose. Donc il y a cette action politique, et c'est pour ça qu'en ce moment, c'est encore plus important.
Je reviens à la notion justement d'expérience, notamment d'expérience unifiée. Margot, les commerçants et les e-commerçants, aujourd'hui, quand on parle de construction d'expérience unifiée, on se retrouve face à une complexité qui est parfois démesurée. Et il y a notamment un phénomène qui arrive. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez tous, ça s'appelle l'expérience gap. Est-ce que tu peux nous en donner une définition? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir ou qu'est-ce qu'il faut en retenir?
Alors, l'expérience gap pour... donner une définition très simple, c'est quand je me retrouve sur un site de distributeur que je dois chercher ma nouvelle crème pour la peau, qu'on me propose 25 000 marques dans tous les sens, pour tous les types de peau. J'essaye de remplir un questionnaire, mais ça me donne encore 25 références de 14 marques différentes. Et puis après, je vais en magasin et là, j'ai une personne qui vient me voir avec un grand sourire, qui me propose de l'aide et qui va me faire un petit test, un petit simili scientifique. Elle va vérifier que ma peau, elle n'est pas trop grasse, pas trop vieille.
Elle est parfaite.
Merci, c'est gentil. Et du coup, elle va me recommander les bons produits, la bonne suite de produits. Là, clairement, le site internet, j'étais perdue, j'étais tout seul et je n'avais pas aucun moyen de répondre à mes questions. Par contre, en magasin, là, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui me suit, qui me rassure et qui, en plus, me fait des recommandations. Et on le sait tous la recommandation de pair à pair, c'est ce qu'il y a de plus performant, même quand on est face à un vendeur. Donc l'expérience gap, c'est ça. Et là, je prends un exemple particulièrement drastique entre l'expérience en ligne et en magasin, mais ça marche aussi d'une application au site web. L'expérience que je peux avoir via les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, l'identité de la marque, versus ce que je vais rencontrer du coup sur le site internet ou en magasin. Et en effet, aujourd'hui, c'est une complexité affolante, en fait. Mais autant pour les marques que pour nous. Et en même temps, cette complexité, elle crée énormément de frustration. Côté consommateur, moi, personnellement, je viens de m'acheter une nouvelle paire de chaussures. Ça me rend dingue quand je reçois toujours la même pub pour cette même paire de chaussures. Je l'ai déjà achetée. Proposez-moi le bracelet qui va avec. Je ne sais pas. Mais donc, aujourd'hui, cette complexité, c'est, je pense, l'un des plus gros challenges pour les marques. L'omnicanalité et le fait d'avoir une stratégie cohérente, solide, à travers tous ces canaux, personne aujourd'hui ne sait correctement remplir le gap, même dans le luxe. Pourtant, ils sont particulièrement bons là-dessus, je trouve. Même dans le luxe, on n'y est pas encore. Et bon, ça, on en revient au sujet du tout début. Coût d'acquisition, beaucoup trop important parce qu'un gap d'expérience entre un site et une application et une expérience en magasin, ça peut vous coûter beaucoup, beaucoup de clients. Et en plus, derrière, ça peut même augmenter le prix d'acquisition dans le sens où eh bien, il va y avoir une frustration, il va y avoir une déception, des engagements, des loyautés, fidélité qui sera plus longue à récupérer. Donc forcément, tout ça, en plus, ça va rallonger votre temps. Et donc, si c'est le temps d'acquisition, c'est aussi votre coût. Aujourd'hui, ce gap d'expérience... on essaye aussi de le résoudre principalement côté équipe. Et là encore, en fait, quand on regarde chez nos clients, chez Content Square, on a une équipe e-commerce d'un côté, on a une équipe merchandising de l'autre pour les lignes, les produits, avoir une autre équipe pour les réseaux sociaux, encore une autre pour in-store, etc. Et nous, on essaye avec notre solution de parler à toutes ces équipes-là. Et c'est extrêmement compliqué. L'organisation est complètement silotée. Les équipes ne sont pas formées correctement pour pouvoir penser omnicanal. Ils sont tous experts de leur sujet. C'est très bien, mais maintenant, il faut être expert de notre sujet dans un écosystème, hein, en fait, et pas seulement dans notre coin. Donc ça, c'est des challenges qu'il va falloir qu'on relève tous ensemble, autant côté solution, parce que nous aussi, on doit vous accompagner à pouvoir travailler sur un seul outil, pas en gérer 25, et pouvoir suivre la même métrique, que ce soit du e-commerce au merchandising jusqu'au mobile. Et aussi du côté des marques, que ce beau petit monde se travaille encore plus coude à coude, parce que là, il y a des trous dans la raquette.
Donc il y a quand même un gros enjeu d'organisation et de silotage des parcours, ça c'est très clair. Si j'en reviens, moi Laurent, à mon business, mon jeu de rôle que j'avais un petit peu au début, donc j'ai fait mon audit test and learn, j'ai commencé à voir un peu ce que faisaient mes concurrents, très bien. Si là je commence à m'intéresser justement à ce sujet de l'expérience gap, de manière assez pragmatique ou opérationnelle, c'est quoi la première chose qu'il faut que je fasse et que je regarde?
Alors c'est Antoine qui le citait, ce chiffre intéressant tout à l'heure. 75% des parcours d'achat sont multimodaux. On partage cette idée, donc je vais répéter juste ce principe d'expérience unifiée. Je le disais au tout début, mais l'expérience de marque, elle est hyper importante pour créer de l'adhésion, de la fidélité à ta marque. Et du coup, l'expérience d'achat, je pense, doit subir un peu la même approche pour que du site à la boutique, à l'app mobile, au message WhatsApp, à ma discussion avec le SAV, bah, j'ai une expérience qui soit unifiée, qui soit la même et qui corresponde bien à l'univers de marque. Il y a un bel exemple là-dessus, je pense, qui est sur un sujet qui est assez simple, c'est le clienteling, que de plus en plus d'outils aujourd'hui permettent. C'est Etam. Quand vous allez faire un achat chez Etam, site, boutique, on a Etam a une application. C'est un super épisode du panier que je vous recommande d'écouter. Autopromo a une application et qui permet très facilement, par plein de critères différents, de retrouver le parcours de visite, d'achat, les tailles, plein de choses d'un client ou d'une cliente qui rentre en boutique. Et je pense que ça permet d'avoir justement cette approche d'expérience unifiée en fonction du canal sur lequel on va retrouver le client.
Très clair. Merci Laurent pour ce deuxième conseil. On va aborder la quatrième et dernière partie de cette table ronde. On ne pouvait pas évidemment, alors c'est pas très original, mais on a parlé un petit peu d'intelligence artificielle et d'analyse de données juste avant. On va évidemment faire un petit focus là-dessus. Le 5 juin dernier se tenait le sommet Adopt AI de Artefact à Station F. Je ne sais pas si certains ou certaines ont eu la chance d'y aller, mais il y avait plus d'une centaine de conférences autour justement de la data et de l'intelligence artificielle. Toi Margot, tu as eu la chance d'y aller ?
Oui.
Et d'y découvrir pas mal d'idées et d'innovations. Moi, j'ai deux questions en une. La première, c'est comment l'intelligence artificielle peut-elle offrir justement des leviers d'optimisation pour les marques ? Et la deuxième, pour préciser un petit peu cette question, c'est comment est-ce que nous, consommateurs, on va être confrontés à cette IA de manière très concrète ?
C'est une question intéressante parce que, bon, oui, Adopt AI était une conférence où on avait énormément de marques. On a aussi eu La Poste, SNCF, donc énormément d'acteurs qui gravitent autour de l'intelligence artificielle, côté cabinet de conseil et accompagnement aussi, évidemment. Les deux grandes tendances qu'on peut retrouver, qu'on va ressortir de ces conférences-là, c'est que côté utilisateur, il y a un enjeu de personnalisation, et c'est là que l'omnicanal va venir jouer un rôle important, parce que je veux que mon mail, ma newsletter, elle soit adaptée à ce que moi j'ai aimé pendant le mois sur le site internet, ou alors qu'elle fasse écho à mes dernières interactions sur Instagram. Je pousse le bouchon très très loin, mais c'est l'idée. Mais surtout, on le voit aujourd'hui, ces technologies, donc la technologie la plus à la mode en ce moment, je pense qu'on en a tous entendu parler, c'est la Generative AI, chatbot évidemment, avec ChatGPT en tête de liste. Ces technologies, elles sont très très glamour, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'elles sont performantes ? Aujourd'hui, à l'échelle de la grande consommation, ça ne répond pas à toutes les questions. On n'est pas en mesure de répondre à toutes les questions, à tous les besoins, ça ne remplit pas tous les trous d'expérience gap. Donc on va en avoir de plus en plus, parce que ça va nous permettre de nous guider. Je ne suis pas forcément la première utilisatrice, par contre ma grand-mère qui va devoir prendre son nouvel abonnement sur SFR, elle sera très contente d'avoir un guide sur le site SFR pour choisir son package. Donc il y a un petit touch point, on va dire, sur ce Gen AI, grande consommation sur la partie vraiment éducation et accompagnement, mais l'enjeu il n'est pas là. En fait, l'enjeu de l'IA aujourd'hui, ça va être optimisation des coûts. Donc, ce n'est pas nous, en tant que consommateurs, qui allons le croiser. C'est nous, en tant que salariés, collaborateurs, employés dans nos entreprises, que nous allons l'avoir. On va l'avoir auprès des agents, vendeurs en magasin ou même dans les call centers, qui vont être accompagnés avec des prompts un peu dynamiques, qui vont être automatiquement adaptés selon ce que la personne va dire au téléphone. Ça va être aussi être enrichi avec toute la donnée qu'on aura eue auparavant sur son expérience en site internet, quel produit elle a regardé, quelle taille, etc. Ça va être l'optimisation de coûts, tout simplement optimisation du pricing pour de l'hôtellerie. J'ai bossé là-dessus avec une boîte en IA avant, c'est-à-dire que si c'est a priori une famille, si c'est un week-end ou si c'est en soirée, si c'est en pleine nuit, eh bien, le pricing va s'ajuster automatiquement pour pouvoir assurer la conversion et en même temps optimiser les marges. Donc l'IA aujourd'hui à grande échelle, je vous parle à 3-5 ans à tout péter, c'est pas en tant que consommateur qu'on va la voir, on va surtout la voir en tant qu'employé et collaborateur. L'aspect consommation va être en fait, c'est le back-end en fait. Il y aura un peu de Gen AI, ça c'est sûr, le wow effect est présent, c'est très bien en termes de marketing. Mais les IA les plus solides, qui vont aller du coup bien au-delà de simplement les modèles de langage LLM, mais on va être sur du prédictif, sur de la recommandation, sur de l'analyse multicontextuelle qui va prendre en compte des multiples sources de données. Cette donnée-là, c'est la source de la plus grosse valeur pour nous en tant que consommateurs. Et on n'y sera pas confronté directement, ce sera du back-end. C'est ça qui nous permettra d'avoir des expériences, des pricing adaptés, des expériences personnalisées, mais pas de frontal, quoi. C'est demain, Décathlon ne va pas me dire quelle chaussure acheter juste en arrivant sur le site.
Je ne suis pas sûr.
Ah ouais ?
Ouais.
Tu crois que Décathlon va se souvenir de moi ? Bon. Sans cookies ? Parce que Google va tuer les cookies.
C'est pour ça que je reprends en fait ce que fait Shein. Oui. En fait, pour reprendre le point. En fait, tu parles de pricing adapté. Alors, il y a une base qui est assez simple, mais sans EasyA, qui est celle qu'on peut avoir sur Vinted. Parce qu'il y a 6 millions de Français qui tous les jours vont sur Vinted. Et donc tous les jours, il y a une adaptation comme à la Dine Medina dans le Maroc, où je négocie. Voilà. Donc il y a cette base de prix adapté qui n'a jamais été aussi quotidienne désormais pour 6 millions de Français, ce qui est quand même conséquent, compte tenu en fait du nombre qu'on est. Le deuxième point, c'est dans les prix adaptés. Et là, je regarde aussi comment fonctionne Shein ou encore Temu. Tu as deux bases. Tu as une première base qui est quel est le produit qui est montré, par exemple, sur la homepage et sur chacune des pages catégories. Et là aussi, comme ils sortent 8000 nouveaux produits par jour, ils sont une logique quasiment à la TikTok. C'est-à-dire, à partir du moment où toi et moi, on va sur TikTok, on n'a pas nécessairement les mêmes goûts, les mêmes envies, etc. Il y a 720 000 nouvelles vidéos sur TikTok en France tous les jours. Donc, toi et moi, en fonction de notre goût, nos interactions, on va avoir nécessairement un flux qui va être complètement différent. Donc, la Chine aussi est en train de personnaliser ce flux. Donc, tu vois, cette base qui est, oui, je vais en fonction de tes envies, proposer des produits différents, il y a cette base-là. La différence, c'est que pour bien le faire, il faut 8000 nouveaux produits par jour. Ce que ne fait pas Decathlon. Mais ce que veut faire Decathlon.
C'est-à-dire, ils ne sont pas si loin des 8000 nouveaux produits par an.
Avec le travail, ne serait-ce que de la marketplace, etc., ils veulent y être. Le deuxième point va être dans les prix personnalisés. Et là aussi, en France, il y a une certaine rigidité à cause de deux biais. Le biais légal dont je parlais tout à l'heure, les 30 jours où on ne peut pas faire de promo. Et le deuxième, c'est le manque d'agilité qu'il va y avoir entre le réseau d'un côté et l'online, où évidemment dans l'online, on peut être beaucoup plus agile que dans l'offline, même s'il y a des étiquettes automatisées, électroniques. On est quand même dans quelque chose qui est moins simple que dans l'online. Or, là aussi, les parcours à la fois qui sont créés dans les prix personnalisés grâce au CRM qui est mis en place, mais aussi directement sur les prix, où là aussi les tests que j'ai pu effectuer montraient que toi et moi, si on va différemment sur le site de Shein, on ne va pas avoir les mêmes prix non plus. Donc on tombe dans un univers où les prix sont personnalisés, ce qui est un énorme changement vis-à-vis de la construction même de notre commerce qui existe grosso modo depuis Boussico, c'est-à-dire depuis le développement du bon marché, il y a à peu près deux siècles. Parce que l'innovation en 1853 du bon marché, c'est de mettre des prix fixes, des prix qui sont affichés, ce qui n'était pas le cas avant. Et comme il y a des prix affichés, on peut faire de la promo. Comme il y a des prix affichés, on peut changer le merchandising. Comme il y a des prix affichés, on peut faire de la vente à distance. C'était le premier Amazon, c'était évidemment avec le bon marché, il y avait aussi la livraison à domicile. Et comme il y a des prix affichés, on a cette capacité à pouvoir changer le merchandising en permanence et à faire évoluer les gens dans son client de façon aussi volontaire comme on peut l'avoir par exemple chez IKEA encore en ce moment. Donc cette base du prix fixe qui avait été site innovation, elle est totalement disruptée par l'intelligence artificielle et la capacité de mettre des prix personnalisés. Et la vision, c'est est-ce que le futur, justement, grand magasin, ça sera un magasin comme la Médina, c'est-à-dire un magasin où on va négocier nos prix. Et il est possible que d'ici un an, deux ans, trois ans, le BHV ou tous les autres changent de fusil d'épaule en disant « Tiens, maintenant, quand j'y vais, je vais négocier le bout de gras sur un certain nombre de produits. »
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois pour cette discussion.
Merci.
Merci à tous.